OK, on va commencer notre cinquième leçon dans notre série sur la crainte de Dieu. On est encore dans la définition. On va voir que la définition de la crainte de Dieu se faisait, on avait vu la semaine dernière que ça se faisait par la connaissance de Dieu lui-même, mais on va voir aujourd'hui que ça se fait aussi par la parole écrite de Dieu, autrement dit la Sainte Bible. Alors, on va reviser un petit peu ce qu'on a vu jusqu'ici. De façon d'avoir de manière à avoir une vue d'ensemble. Dans notre première leçon, on avait étudié le fait que le sujet de la crainte de Dieu est prédominant dans la Bible. Autrement dit, c'est présent un petit peu partout dans toutes les saintes Écritures, dans tous les livres des Écritures. Dans la deuxième leçon, on avait affirmé que les saintes Écritures enseignent la crainte de Dieu sous deux aspects. Le premier, un rapport avec la peur, la terreur, l'épouvante et la frayeur. Autrement dit, c'est les gens qui ne sont pas sauvés lorsque Dieu se manifeste. Ils ont vraiment une terreur et une peur réelle, une peur, l'épouvante, la frayeur. Le deuxième sens qu'on donne dans les Écritures concernant la crainte de Dieu a un rapport plus avec l'idée de grand respect, d'honneur, de vénération, de grande admiration, de soumission, d'obéissance, de haine et d'abandon du mal, de piété, et le fait de ne pas vouloir offenser Dieu sous aucune considération. Et ça a aussi l'idée d'émerveillement. Donc la deuxième partie, c'est plus la partie qui touche normalement les élus de Dieu, les véritables croyants. Quoique les croyants peuvent aussi connaître l'autre aspect. Dans certaines circonstances, mais comme on avait vu dans la leçon, Dieu vient toujours rassurer le croyant à ce moment-là, de manière à ce qu'il n'ait pas vraiment une crainte comme les païens ont. Dans la leçon 3 et 4, on avait vu que la définition de la crainte de Dieu vient de la connaissance de Dieu lui-même. Ça nous avait pris deux leçons pour passer à travers de tout cela. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, on va terminer la définition de la crainte de Dieu et on va voir qu'elle provient de la parole écrite de Dieu. Donc, la crainte de Dieu trouve sa source dans la parole écrite de Dieu. Alors, les Écritures nous disent que pour trouver notre règle de conduite et notre direction dans la crainte de Dieu, nous devons impérativement utiliser la sainte parole de Dieu. On va aller regarder le psaume 19 et verset 7 à 11, excusez-moi. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est net, il donne aux yeux la lumière. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vérité, elles sont entièrement justes. Elles sont plus désirables que l'or et que beaucoup d'or fin, et plus douces que le miel et ce que distillent des rayons de miel. Même ton esclave est éclairé par elle, à les garder. Il y a une grande récompense. Donc, on voyait dans le verset 9, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Donc, plus on connaît les Écritures, plus on les lit, plus on les médite, plus on les étudie, plus on les mémorise, plus on accomplit ce que les Écritures nous disent de faire avec les Écritures, plus notre crainte. Le temps qu'on passe des Écritures est directement proportionnel avec la crainte de Dieu qu'on va développer dans le temps. C'est bien important de comprendre ça. À partir du moment que tu le comprends, ben à ce moment-là, tu t'organises pas. Tu passes plus de temps à la lire, plus de temps à l'écouter, plus de temps à l'étudier, plus de temps à la mémoriser, plus de temps à la méditer. Puis plus on fait ça, plus on va craindre Dieu. Parce que, bien sûr, si on développe toutes ces choses-là simultanément, nos devoirs par rapport à la parole de Dieu, bien sûr qu'on va connaître Dieu davantage. On a dit la semaine dernière que le développement de la crainte de Dieu vient de la connaissance même de Dieu. Alors, plus tu vas étudier les Écritures, plus tu vas connaître Dieu, plus tu, et tout cela, ça se tient ensemble. Dans le psaume 34, au verset 11, on lit « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Donc, il y a quelque chose qui est important qui nous est enseigné dans le verset, c'est que la crainte de l'Éternel, ça s'enseigne. Ça s'enseigne où? Dans les Écritures. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 7. Ça, c'est le schéma juif. Les Juifs enseignaient à leurs enfants que le matin, le soir, sur le chemin, ils devaient enseigner cette chose-là. C'est une prière. Et la prière, que moi, je la trouve extraordinaire, cette prière-là, on devrait la faire nous-mêmes, la prendre par cœur et la faire tous les jours. Ça dit... Écoute, Israël. J'ai lu un commentaire récemment sur le début du schéma juif. Écoute, ça ne veut pas juste dire écoute avec tes oreilles. Ça veut dire écoute, entends vraiment de façon spirituelle et obéis. Ça dit écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel seul tu aimeras. L'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Ça veut dire quoi que des paroles sont sur ton cœur? L'apprendre par cœur. C'est ça que ça veut dire. Ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur et tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu habiteras dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Autrement dit, ça doit faire partie de ta vie de tous les jours. Ésaïe 66, verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Vos frères qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom ont dit que l'Éternel se glorifie et nous verrons votre joie. Et eux, ils seront honteux. Voyez-vous le verset début, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. C'est fort comme expression, hein? Trembler à sa parole. Ça veut dire quand on lit les Écritures, l'effet que ça devrait nous faire, là, est-ce que ça nous fait toujours cet effet-là? Pas sûr du tout. Là. Alors, mais les Écritures, ça dit bien, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Alors, si on tremble à sa parole, c'est parce qu'on se rend compte de qui parle et les choses qu'il a le droit de nous imposer et qu'on a... Tu n'y as pas toujours compte, mais malheureusement. Alors, on a dans Esdras, au chapitre 9, les versets 3 et 4. Esdras, ici, confesse le péché du peuple qui avait mêlé la sainte semence avec les nations païennes. Autrement dit, Dieu avait dit, « Je vous défends comme nation israélite de vous marier avec les nations autour parce qu'ils vont vous entraîner dans l'idolâtrie. » Et, comme de raison, ils ont désobéi, un peu comme on désobéit encore au Seigneur aujourd'hui sur différentes choses. Et ça nous entraîne toujours dans le malheur, tout le temps, automatiquement. Et il dit, quand j'entendis cette parole, alors c'est Esdras qui parle, quand j'entendis cette parole, autrement dit la parole que les gens du peuple avaient commencé à aller se marier avec les gens des alentours, il dit, quand j'entendis cette parole, je déchirai mon manteau et ma robe. Quand on voit cette expression-là dans les Écritures, c'est les Juifs, quand ils entendaient quelque chose qui les touchait profondément dans le cœur et qui les attristait, leur façon d'exprimer leur sentiment était de déchirer leurs vêtements. Il dit, alors il entend la parole que les gens avaient commencé à se marier avec les nations environnantes. « Je déchirai mon manteau et ma robe et j'arrachai les cheveux de ma tête et ma barbe. » Et je m'assis, consterné. Il était attristé à un point. « Hey, t'as arraché les cheveux et t'as arraché la barbe. » Il faut que tu souffles là, en venant de toi-même. Surtout que j'en vois un dans l'assemblée qui n'a une barbe. Là. Et vers moi s'assemblèrent tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d'Israël à cause de la prévarication des fils de la déportation. Et moi, je restai assis, consterné, jusqu'à l'hommage du soir. Était tellement affecté par la nouvelle que ces gens-là avaient désobéi, qu'il a resté comme figé, puis il est resté de même dans cette même position-là toute la journée, jusqu'au soir. Alors ça montre à quel point la mauvaise nouvelle l'affectait. Alors, la crainte vient de la réalisation de ce que ce sont les paroles mêmes de Dieu. Quand on lit les Écritures, souvent on utilise l'expression « Ah, oh, c'est écrit dans la parole de Dieu ». On a souvent, à force de la dire, des fois, ça devient banal. On ne réalise plus pleinement que c'est Dieu qui nous parle à travers les pages des Écritures. Dieu lui-même nous parle. Souvent, on perd ça de vue et on lit pas les Écritures avec la révérence qu'on devrait avoir. Dans Habacuc, au chapitre 3, verset 16, lorsque Habacuc a entendu la parole du Seigneur, voici ce qu'il dit. « J'ai entendu et mon corps a frémi. À la voix, mes lèvres se sont entrechoquées, la carie a pénétré dans mes os et j'ai frémi sous moi. Moi qui serai en repos au jour de la détresse, quand montera contre le peuple celui qui l'assaillera. » Il dit que son corps a frémi. Il a entendu la parole de Dieu. Là, puis frémir, c'est vraiment trembler, là, littéralement. Dans le psaume 29, versets 4 et 5, ça c'est un psaume qui me revenait souvent à la mémoire quand j'allais visiter les chutes Montmorency à Québec. Parce que ça dit, « La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est magnifique. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Oui, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Il fait bondir le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel trace des sillons de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait faonner les biches. Elle dépouille les forêts. Et dans son palais, tout dit gloire. » Et il y a d'autres versets qui disent que la voix de l'Éternel est comme des puissantes chutes d'eau. Quand vous allez, si vous passez sur le petit pont là, qui est en haut, quand vous entendez au printemps, si tu y vas au mois de début de mai, là, c'est tellement impressionnant d'être là et d'entendre. Et la parole nous dit que c'est, la voix de l'Éternel, c'est impressionnant comme cela. Alors, la crainte de l'Éternel provient de la réalisation que les paroles qui sont dans la Bible, c'est les paroles mêmes de Dieu. Autre idée, la crainte de Dieu provient de la prise de conscience que la Bible parle de la destinée éternelle des hommes. Souvent, on lit les Écritures, on lit ça d'un couvert à l'autre, quand on le fait, là. Mais on serait censé de le faire. Mais le sujet principal de la Bible, c'est le salut en Jésus-Christ. Et son pendant négatif, que si tu ne vas pas avec Jésus-Christ, tu vas aller à un endroit qui est terrible, qui est l'enfer. La Bible n'en parle. Aujourd'hui, de plus en plus de prédicateurs, de théologiens même, ont comme évacué l'idée de l'enfer, alors que c'est tellement clair, les Écritures en sont remplies. Et le Seigneur lui-même, Jésus, a toute une liste, j'ai une liste à la maison, de toutes les fois que le Seigneur a parlé de l'enfer. Jésus, dans les quatre évangiles. Alors, quand quelqu'un dit « Moi, l'enfer, je ne crois pas à ça », ce que je faisais quand j'étais à Québec, des fois, je prêchais dans la rue, puis je disais « Ah, oh, ça n'existe pas, ça, l'enfer. OK, je viens ici. » Ouvrez la Bible, j'ai emmené un verset de l'enfer, dit par Jésus. Fait que là, quand il lisait ça, il dit « T'es-tu en train de me dire que Jésus est un menteur? » Et là, c'est comme, il n'osait pas le dire. À quelque part, et là, je pense que ça le remettait à sa place. Donc, c'est la parole de Dieu qui va parler du jugement des hommes. Jean 12, versets 47 et 48. « Et si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, il a qui le juge. C'est la parole que j'ai prononcée qui le jugera. » Au jugement dernier, au dernier jour. Autrement dit, il dit que c'est la parole qui va le... Autrement dit, si tu ne crois pas à lui, c'est la parole même qui va te juger à la fin. Donc, la deuxième raison, c'est que la crainte de Dieu provient de la prise de conscience que la Bible parle de la destinée éternelle des hommes. Troisième raison, la crainte de Dieu provient du fait que la Bible est vraie et fidèle. Matthieu 24, verset 35. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Daniel 10, verset 21. Toutefois, je te communiquerai ce qui est tracé dans l'écriture de vérité. Il n'y a personne qui me soutienne contre ceux-là, sinon Michaël, votre chef. Il est en train de communiquer à Daniel, puis il dit, je vais te communiquer ce qui est écrit dans l'écriture de vérité. Apocalypse 19, verset 9. Et il me dit, écris, bienheureux ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Jean 10, verset 33-38. Les Juifs lui répondirent en disant, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais c'est pour un blasphème, et parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux auxquels la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être renversée. Direz-vous, tu blasphèmes à moi que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, encore que vous ne me croyez pas, croyez les œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi et moi en lui. Psaume 119, verset 89. Pour l'éternité, ô Éternel, ta parole demeure ferme dans les cieux. Proverbe 13, verset 13. Qui méprise la parole se perd lui-même, et qui craint le commandement sera rétribué. Alors, comme peuple de Dieu, ne devrions-nous pas développer grandement notre connaissance et notre obéissance à la parole de Dieu, puisqu'elle contient tous les secrets de la vie éternelle? Ne devrions-nous pas non plus également la diffuser quotidiennement à tous ceux que le Seigneur met sur notre route? Prions pour plus d'amour, plus de zèle et plus de soumission à sa sainte parole. Proverbe chapitre 4, versets 19 à 22. Le chemin des méchants est comme l'obscurité. Ils ne savent contre quoi ils trébucheront. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les au milieu de ton corps. Encore une autre invitation de Dieu à mémoriser sa parole. Garde-les au milieu de ton cœur. Car ils sont la vie de tous ceux qui les trouvent et la guérison pour toute chair. Alors, on va regarder quelques applications qu'on peut faire avec cette très, très brève étude concernant que la parole de Dieu est la source de la crainte de Dieu. Première application. Les saintes Écritures jugent sévèrement ceux qui ne se laissent pas diriger par elles. Jérémie, chapitre 8, versets 6 à 9. J'ai prêté l'oreille et j'ai écouté. Il ne parle pas droitement. Il n'y a personne qui se repent de sa malice en disant, qu'ai-je fait? Tous, ils se détournent dans leur course comme un cheval qui s'emporte dans la bataille. La cigogne même connaît dans le ciel ses saisons. La tourterelle et l'hirondelle et la grue observent le temps où elles doivent venir. Mais mon peuple ne connaît point le droit de l'Éternel. Comment dites-vous, nous sommes sages et la loi de l'Éternel est avec nous? Assurément, la voilà la loi dont la plume menteuse des scribes a fait un mensonge. Les sages seront couverts de honte, ils seront effrayés, ils seront pris. Voici, ils rejettent la loi de l'Éternel, que serait leur sagesse? Autrement dit, si quelqu'un rejette la Bible, il n'y a aucune sagesse possible. 1 Samuel chapitre 15. Versets 22 et 23. Et Samuel dit, « L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce que l'on écoute la voix de l'Éternel? Voici, écouter vaut mieux que sacrifice, et prêter l'oreille mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est autant que le péché de divination, et l'obstination autant que l'iniquité et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. » Alors, s'il dit, on reste Saül, il parle de Saül. Il dit, tu as voulu rejeter la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette maintenant. Première application, donc, les Écritures jugent sévèrement ceux qui ne se laissent pas diriger par elles. Deuxième application, n'ayons point honte du Seigneur Jésus-Christ et de sa parole. Il n'y a pas un être humain sauvé qui, dans sa vie, au moins une fois, n'a pas eu honte qu'à un certain point. On a peur de parler du Seigneur aux autres, puis on a peur de faire rire de nous autres, puis on a peur. On a honte. Jusqu'à un certain point. Marc 8, 38. « Car celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles au sein de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » 2 Chroniques, chapitre 36, versets 15 et 16. « Même tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent de plus en plus leur prévarication selon toutes les abominations des nations, et ils souillèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Et l'Éternel, le Dieu de leur père, avait envoyé vers eux par le moyen de ses messagers, les envoyant dès le matin, car il avait pitié de son peuple et de son propre domicile. Et ils se moquaient des messagers de Dieu, et méprisaient ses paroles, et se raillaient de ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel contre son peuple montât au point qu'il n'y eut plus de remède. » Voyez-vous, l'Éternel permet que des fois on annonce, on rit de nous autres, on se moque, on nous méprise, mais ça dit qu'il y a comme une limite. Le Seigneur dit, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel contre son peuple monta au point où il n'y a plus de remède. Autrement dit, tu dépasses la mesure. Quand tu arrives là, le Seigneur, s'il te rejette, il est trop tard. Troisième et dernière application, implorons le Seigneur de nous faire la grâce de prendre pleinement conscience du fait que c'est lui-même qui nous parle et qu'il nous parle des réalités éternel du ciel et de l'enfer dans les Saintes Écritures. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi aussi nous rendrons grâce à Dieu sans cesse de ce que, ayant reçu la parole que vous avez entendue de nous, laquelle est de Dieu, vous avez reçu non la parole des hommes, mais comme elle l'est véritablement, la parole de Dieu, laquelle aussi déploie son efficace en vous qui croyez. Matthieu 25, verset 46. Et ceux-ci s'en iront à une punition éternelle, et les justes à une vie éternelle. Jean 5, versets 24 et 39 et 40. Donc, Jean 5, 24. Amen, amen, je vous le dis. Qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et dans le verset 39 et 40 du chapitre 5 aussi de Jean, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Colossiens, dernier verset, Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole du Christ habite en vous richement, vous enseignant et vous avertissant en toute sagesse les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels avec action de grâce, chantant de votre cœur au Seigneur. Aimons la parole de Dieu davantage et puisons abondamment en elle pour développer notre crainte de Dieu par sa grâce et pour sa gloire. Amen.